dans une petite seconde la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet.
Une dernière partie sur l'Europe, comme vous l'avez laissé entendre, Antoine Mercier, puisque vous le disiez dans votre journal, les élections régionales en Allemagne qui ont eu lieu ce week-end ont vu la percée de l'extrême droite dans trois régions, que samedi dernier, en France, François Hollande réunissait à l'Élysée une quinzaine de responsables sociaux-démocrates européens pour éviter, je le cite, le risque d'effacement de l'Europe faute de volonté commune, que les mêmes Européens doivent se retrouver les 17 et 18 mars prochains, soit cette semaine à Bruxelles avec la Turquie sur la question des migrants, et que cette question européenne occupe, voire préoccupe notre invité Étienne Balibar depuis de nombreuses années. Je vous salue d'abord, Étienne Balibar.
Merci beaucoup, madame. Je suis très heureux et très honoré de me trouver aujourd'hui avec vous.
C'est nous qui sommes très honorés de vous recevoir. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Ouest et Anniversary Chair of Modern European Philosophy, impossible à traduire, c'est comme ça qu'on dit, de l'Université de Kingston à Londres. Vous venez de signer Europe, crise et fin, point d'interrogation, aux éditions du Bord de l'eau. C'est un ensemble de textes que vous avez rédigés entre mai 2010 et octobre 2015, qui se présentent moins comme un essai philosophique, comme des réflexions engagées d'un intellectuel, je ne sais pas, en colère, soucieux en tout cas, soucieux, peut-être indigné par certains moments, nous allons le voir avec vous. Pour dialoguer avec vous, pour nous vous interroger à nos côtés, nous avons proposé à Antoine Vaucher de nous rejoindre autour de la grande table. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous avez signé en 2014 « Démocratiser l'Europe à la République des idées », la collection des éditions du Seuil. Et c'est pour cette raison que vous êtes aussi autour de la table aujourd'hui. Je disais, Étienne Balibar, que ce livre était moins un essai de philosophe que des réflexions, même si elles sont des réflexions de philosophe, des réflexions d'un intellectuel.
C'est ça la philosophie,
c'est, voilà, madame. C'est ce que j'allais dire, c'est pas opposé. Hein, ce que je dis, mais c'est pas un seul essai avec une seule idée, c'est plusieurs idées.
Un des maîtres que j'ai eu dans ma jeunesse, qui, dont le nom n'est pas effacé aujourd'hui, Michel Foucault, a écrit en diverses circonstances qu'il pensait qu'il y avait deux genres philosophiques majeurs aujourd'hui dans la modernité, dont l'un évidemment est l'enseignement et dont l'autre, disait-il, est le journalisme. Alors évidemment, il avait une définition large du journalisme qui allait de pair avec une certaine façon de comprendre le rapport de la philosophie et plus généralement de la pensée avec l'actualité en général. Mais je pense qu'il avait tout à fait raison.
C'est l'actualité, en l'occurrence l'actualité européenne, qui donc vous occupe depuis, j'ai envie de dire, depuis une quinzaine d'années, parce que c'est presque le quatrième livre que vous consacrez à l'Europe, et ce depuis 2001. Vous n'êtes pas, et vous le dites d'emblée, un spécialiste de l'Europe, mais l'Europe est au cœur de vos préoccupations. Pour quelle raison, Étienne Balibar ?
On peut toujours donner des raisons subjectives, c'est-à-dire pas raconter sa vie, mais enfin faire état de la trajectoire d'un homme de presque 75 ans comme je suis, qui a traversé un certain nombre de vicissitudes et surtout pour qui la création progressive, je dirais, d'un espace de communication en plusieurs langues avec des collègues, des interlocuteurs de tous les pays qui nous entourent est devenue peu à peu une espèce de condition presque vitale pour le travail et pour la réflexion. Bon, et puis on pourrait aussi évoquer le fait que dans ma jeunesse, j'ai été un marxiste convaincu, et d'ailleurs je le reste à certains égards, même si, parce que je pense qu'il y a des clés dans Marx dont on ne peut pas se passer. Bon, donc même si je pense qu'on a besoin aussi d'autres éléments d'analyse et d'explication. Et alors, à la fin du Manifeste communiste, Marx expliquait que, au fond, il y avait deux grandes forces transformatrices dans le monde d'aujourd'hui, dont l'une était la lutte des travailleurs contre l'exploitation capitaliste, et dont l'autre était l'internationalisme. Bon, alors je ne sous-estime pas la première, mais c'est vrai que pour moi, la seconde a une importance toute particulière. Bon, mais enfin, tout ça, ce sont des raisons, je dis pas anecdotiques, mais latérales. La raison fondamentale, c'est que je pense que le cadre politique et sociale dans lequel nous vivons et dont il me semble aberrant de penser qu'on puisse sortir sans des dommages très grands pour nous tous, est aujourd'hui de façon irréversible l'Europe. Seulement, comme il se trouve que l'Europe est en ce moment dans une phase de crise que certains vont jusqu'à dire existentielle, c'est-à-dire que son existence est menacée en tant que telle, ou en tout cas il peut se passer des choses graves, la question qu'un citoyen ou un intellectuel un public intellectual, comme on dirait ailleurs, ne peut pas ne pas se poser, c'est de savoir ce qui nous arrive et comment, avec les éléments de réflexion dont on dispose, on pourrait essayer d'en éclairer un peu l'interprétation.
En tout cas, vous parlez d'internationalisme, travailleurs de tout pays, unissez-vous. Ce n'est pas vraiment le slogan de la Commission européenne. Comment vous faites le lien entre ces positions-là et ce qui se passe au niveau européen ?
Disons que j'aimerais bien injecter un peu d'internationalisme dans le post-national dont l'Union européenne est l'institution, par définition. Tout ça,
vous pensez que c'est possible, en fait ?
Comment ?
Vous pensez que c'est possible ? Il n'y a pas de lutte idéologique ?
Alors écoutez, on peut dire les choses de deux façons. Bon, d'une part, si je ne pensais pas que c'était possible, c'est-à-dire que concrètement, il existe ou il peut exister des forces de toutes sortes qui iraient dans ce sens, je rentrerais chez moi et je n'essaierais même pas d'en parler. Bon, mais d'un autre côté, bon, je dis quelque part, je crois, dans les développements conclusifs du livre, que beaucoup des propositions que je fais, qui ne me sont pas propres, relèvent d'une politique virtuelle, peut-être, plutôt que d'une politique réelle, mais que, me semble-t-il, dans les circonstances actuelles, nous n'avons pas vraiment le choix. Hein, nous n'avons pas vraiment le choix. Bon, alors, tout à l'heure, dans votre journal ou dans votre présentation, vous avez évoqué le résultat des récentes élections partielles qui viennent de se dérouler en Allemagne. Bon, donc il se passe quelque chose que les journaux allemands ce matin appellent un tremblement de terre, ou en tout cas un changement de paysage politique, c'est-à-dire que dans le pays qui pouvait sembler immunisé contre ce type de développement, même si c'était peut-être une analyse un peu rapide, l'extrême droite nationaliste, xénophobe, anti-islamophobe, etc., a fait une percée spectaculaire. Bon, mais au fond, c'est une sorte de rattrapage par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe en ce moment. Il n'y a pas de jour, pratiquement, ou de semaine sans qu'on observe un basculement de ce genre. Alors, bon, Marine Le Pen n'est pas encore au pouvoir en France, mais beaucoup des thèmes qu'elle martèle depuis des années ont maintenant gangrené l'ensemble du spectre politique français. Donc, elle est déjà très influente et son organisation a aussi gagné beaucoup. Donc, je vois monter, si vous voulez, encore une fois, je ne suis pas le seul, dans l'ensemble de l'Europe, une forme de nationalisme particulièrement virulente, qui a des bases sociales qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas négliger. Je ne pense pas du tout que les gens, que ça soit un hasard, si vous voulez, si un type de mécontentement se porte plutôt de ce côté-là, et qui me paraît extraordinairement inquiétant, non seulement pour la construction européenne, ça va de soi, tout le monde en est d'accord, mais pour les nations européennes elles-mêmes, pour les peuples dont nous faisons partie, pour la culture que nous essayons de défendre. Il faut une digue contre ça. Alors, elle n'est pas facile à construire, mais je ne vois pas d'autres tâches urgentes. Et si vous voulez appeler ça, et je ne vois pas tellement d'autres noms, finalement, qu'internationalisme pour le désigner.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Nous parlons aujourd'hui de l'idée européenne et de la construction européenne avec le philosophe Étienne Balibar et autour de la table le politiste Antoine Vaucher. C'est à vous Antoine.
Oui, merci. Alors moi je voudrais dire d'emblée que j'ai par rapport à cet ouvrage et par rapport au projet intellectuel d'Étienne Balibar beaucoup d'affinités et je trouve que finalement sa voix aujourd'hui est particulièrement précieuse parce qu'elle est particulièrement rare à la fois évidemment au niveau national, mais au niveau européen, cette façon de penser inlassablement les marges de manœuvre possibles d'un renouveau démocratique du projet européen, malgré tout, C'est peut-être ça qu'il faut dire d'abord. Et, une voix qui finalement, vraiment, aujourd'hui, je trouve à contre-courant. Ce type de journalisme, puisque vous évoquiez cette, me plaît énormément et je me situe vraiment dans cette discussion-là aussi au même point d'observation, c'est-à-dire voir le projet européen comme non pas simplement une construction institutionnelle et politique, mais quelque chose qui est vraiment à l'articulation du politique, de l'économie et du juridique, et de penser comment on va essayer de construire politiquement ces interdépendances européennes qui existent maintenant après 6 décennies de projet européen. Moi, la question que j'avais envie de poser à Étienne Balibar, c'était effectivement que cette démocratisation, vous le dites dans l'ouvrage plusieurs fois, n'adviendra pas par le haut. On a vu les multiples tentatives d'ingénierie institutionnelle pour construire cette politique par des constitutions ou par toutes sortes de mécanismes politiques. Ma question, c'est néanmoins comment, par quel biais, à l'intérieur même des institutions, par quel point d'appui politique, par quel levier institutionnel on peut essayer d'ouvrir justement un jeu qui apparaît comme plutôt un espace d'impossibilité aujourd'hui que véritablement un espace de jeu politique. Comment injecter de la politique et en pensant justement cette question par l'intérieur même des institutions. Finalement, ça peut être une façon de poser la question, quel est l'acquis finalement politique et institutionnel sur des questions de droits fondamentaux, de droits sociaux, de citoyenneté, sur lequel peut-être ces luttes peuvent s'appuyer aujourd'hui, ou est-ce que les voies d'entrée sont finalement si étroites que elles sont pratiquement inexistantes.
Gros soupir d'Étienne Balibar pour commencer une grande réflexion.
Toutes les questions sont là à la fois.
Étienne Balibar,
je voulais quand même
c'est lourd.
Je voudrais remercier Antoine Vaucher de la générosité de son appréciation et lui dire combien je suis heureux de le retrouver, parce qu'on s'est déjà rencontré une fois il y a quelque temps, et cette fois en public en somme, pour discuter de tout ça. Bon.
Par où commencer?
Alors, vous dites, est-ce que la voie est trop étroite? Oui, elle est extraordinairement étroite. Il n'y a absolument aucun doute. Bon. Est-ce qu'il y a des acquis institutionnels de la construction européenne? Oui, évidemment. Bon. Puisque vous parliez des droits fondamentaux, moi, je pense effectivement que la charte des droits fondamentaux qui a été adoptée, qui est la seule chose qui reste, en somme, elle avait précédé d'ailleurs, mais enfin bon, qui subsiste du projet mort-né de constitution européenne. Alors encore un mécano là, comme vous disiez, je sais pas, une ingénierie fabriquée par le président Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt et quelques autres au début des années 2000, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et si on était y compris sur le plan des droits sociaux, même si à ce niveau-là, les principes sont très généraux, bon, et très éloignés peut-être des applications. Vous citiez tout à l'heure le fait que j'enseigne, alors j'ai un titre compliqué, bon, j'enseigne un cours comme professeur invité, en fait, dans une université anglaise. Et alors, évidemment, maintenant, la question là-bas, c'est le Brexit. La semaine dernière, mes collègues du département de sciences politiques m'ont dit, ça serait bien, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse une discussion avec les étudiants et avec des collègues, réunissant les philosophes et les politologues autour de la question de l'Europe. Alors j'étais d'accord, naturellement. Bon, une des questions, je suis bien gardé de dire s'il fallait voter, ce qu'il fallait voter. Bon, j'ai dit que j'étais comme la reine, que j'étais neutre. Bon, mais enfin, à un moment donné, la question est venue dans les discussions de savoir dans quelle mesure l'appartenance à l'Europe impose des contraintes en matière de droits sociaux au néolibéralisme débridé, dont évidemment l'Angleterre est un des vecteurs ou des chefs de file. Bon. Alors moi, ma réponse est, je m'apprêtais à faire une réponse non seulement prudente, mais au fond, justement, à nouveau pessimiste. Mais j'ai entendu mes collègues, ils parlaient de façon informée, bon, expliquer qu'en fait, il y a quand même au niveau européen un certain nombre de principes, disons, de droits fondamentaux qui ne permettent pas n'importe quelle dérégulation. Alors évidemment, comme on assiste en ce moment même
par
en
exemple,
France,
par exemple,
bah, je, vous, vous me, C'est ce qu'il disait. Hein, c'est ce qu'il disait. Mais je pense que c'est.
En quoi, par exemple, l'Europe a pu améliorer les conditions de travail ou dans les domaines sociaux? Est-ce qu'il y a eu des progrès qui sont faits grâce à l'Europe ou est-ce que ça n'a pas été?
Non. Je pense pas que ce soit des progrès qui aient été faits grâce à l'Europe. Je pense que, excusez-moi, je vous ai pas répondu avec assez de précision. Mais alors là, il faudrait aussi refaire de l'histoire. Je pense que la Charte des droits fondamentaux a entériné les acquis d'une période historique de la construction européenne, que je ne considère pas du tout comme une période de révolution sociale ou de politique à l'avantage du travail, mais dans laquelle les exigences de la citoyenneté sociale continuaient d'être considérées comme un aspect relativement important du système démocratique dans lequel nous vivons. Bon, alors tout ça, évidemment, a commencé à être détricoté de façon systématique après 1989, c'est-à-dire au moment où, en fait, à Maastricht et autour de Maastricht, on a inscrit explicitement dans la quasi-constitution qui régit aujourd'hui l'Europe le principe de la concurrence libre et non faussée, et où par conséquent, c'est ce que j'explique dans mon livre pour provoquer un petit peu la réaction du lecteur, l'Europe unie, l'Union européenne, qui, après l'Union soviétique, l'URSS, est la deuxième grande tentative de construction d'un ensemble supranational sur le continent européen, en est venue, au fond, à pratiquer une espèce de soviétisation inversée, c'est-à-dire à inscrire dans ses propres principes un dogme idéologique sur le terrain économique et social, qui est l'envers exact, évidemment, du précédent, mais qui a les mêmes conséquences dévastatrices. Bon, alors là, il y a une tension, me semble-t-il, et si on avait le temps, bon, on le verrait, je crois, à propos des discussions qui ont lieu en ce moment en France autour du droit du travail, entre certains principes très généraux qui demeurent inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et puis la tendance qui est aujourd'hui dominante. Mais évidemment, cette charte par elle-même, je dis pas que ça n'est qu'une feuille de papier, mais c'est quand même une partie très très limitée. Bon, alors je vois bien que vous voudriez que je m'arrête là, mais
non, c'est que je vais donner la parole à Antoine Gaucher, qui a d'autres questions.
Comme Antoine Vaucher me demandait ce que j'attendais des institutions sur le plan de la démocratisation. Bon, alors d'abord, il me semble, bon, c'est aussi une des idées philosophiques que je suis pas le seul à défendre, que j'exprime dans ce livre. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il existe de régime démocratique en soi. Je pense que la démocratie est un état instable qui se trouve pris au fond dans des circonstances historiques à chaque fois nouvelles, entre des tendances restrictives et des tendances expansives. On pourrait se dire ça dans différents langages. Bon, certains parlent de dédémocratisation, elle est fortement à l'œuvre aujourd'hui. Bon, et je pense que nous avons besoin d'une redémocratisation. Bon, alors, à ce niveau, évidemment, il y a des propositions de type institutionnel qui privilégient le niveau européen. Ça s'impose, bien sûr, parce que là, je suis à peu près sur les mêmes positions que Jürgen Habermas. On a assisté à une inflation de la dimension exécutive du pouvoir politique en Europe. Bon. Alors, il appelle ça dans un allemand qui n'a même pas besoin de traduction, das postdemokratische exekutive föderalismus. Bon, ça fait l'effet d'une machine épouvantable. Il ne dit pas dictature, etc. Bon. Alors, en face de ça, évidemment, la proposition, c'est d'essayer, dans toute la mesure du possible, de rééquilibrer les choses en donnant, pas en redonnant, parce qu'il ne l'a jamais eu vraiment, mais enfin en donnant à l'aspect législatif et parlementaire du système européen une importance beaucoup plus grande. Mais moi, je pense que ça ne suffira jamais parce que, en réalité, ce sont des affaires d'opinion publique, ce sont des affaires de force sociale. Bon, c'est pas seulement une question d'institution. Et puis, d'autre part, il faut arriver à surmonter, c'est une des idées que je défends, et bon, il faut arriver à surmonter un préjugé extraordinairement tenace dont les effets sont très délétères dans toutes ces discussions. Il y a beaucoup à voir, évidemment, avec une conception elle-même terriblement étatiste ou souverainiste de la souveraineté, qui est le préjugé suivant lequel, si on met plus de démocratie, si on injecte plus de démocratie au niveau des institutions fédérales ou quasi-fédérales, on va en enlever au niveau national. Et inversement, le moyen de résister à la dédémocratisation dont l'Europe est le vecteur, c'est de concentrer, au fond, fond l'effort de démocratisation sur le national. Et bon, alors moi je pense que ce qu'on a observé dans la, j'espère qu'Antoine Vaucher est d'accord, moi je serais très content d'entendre son point de vue, mais ce qu'on a observé depuis plusieurs décennies à travers les vicissitudes, etc., c'est pas un transfert des éléments démocratiques d'un niveau vers l'autre, c'est une espèce de dégénérescence corrélative, si vous voulez, ou mutuelle de la démocratie aux deux niveaux. Et par conséquent, je pense que ce pourquoi il faut se battre, vous direz avec quelle force, d'abord celle de la discussion, du discours, pour ne pas dire de la pensée, c'est une relance de l'idée démocratique dans toutes les significations, participation, représentation, bien sûr, et surtout lutte, conflictualité, conflit, etc., à tous les niveaux, et non pas de façon exclusive au niveau européen ou inversement au niveau national. Donc il faut sortir de cette alternative à la fois abstraite et obsédante, je dirais, qui veut que on soit ou bien fédéraliste post-national ou bien souverainiste national.
À questions multiples, réponses longues nécessairement, Antoine Vaucher.
Oui, il y a beaucoup de points sur lesquels, enfin, je vais pas revenir sur tous ces points, bien sûr. Simplement, juste un point sur cette question du Brexit. Je pense que et la question de la charte des droits fondamentaux. Il me semble que justement là où on voit un échec actuellement, c'est précisément sur la capacité de cette liberté de circulation qui est l'alpha et l'oméga du marché européen à s'accompagner d'autres choses, justement simplement par exemple de minima sociaux ou d'une capacité d'accueil de réfugiés, donc de jouer la libre circulation et les solidarités que ça entraîne jusqu'au bout. Et justement l'échec qui apparaît sur ce point ramène l'Europe finalement à son statut de simple marché, et de ce point de vue-là,
oui,
c'est
de toute façon,
authentiquement
les gouvernements anglais, bien sûr, les gouvernements anglais de la période récente, pas au moment de l'adhésion britannique, mais les gouvernements anglais de la période récente, c'est-à-dire Cameron et les Tories, et puis avant lui, évidemment, le gouvernement travailliste immédiatement précédent, ont joué cette carte au maximum. C'est-à-dire, on fait de l'Angleterre au sein de l'Union européenne une des forces. Je ne sais pas si c'est la principale, mais une des forces qui poussait au détricotage des acquis sociaux. Et d'ailleurs, si les Allemands, Madame Merkel, dont on reparlera peut-être pour d'autres raisons, parce que en raison justement de la crise des réfugiés, j'ai un jugement très très nuancé sur Madame Merkel, et je crois qu'il faut la voir. Mais si elle tient tellement, et elle l'a montré à différentes reprises, à ce que les Anglais ne sortent pas de l'Union européenne, c'est évidemment parce que ça lui donne un contrepoids du côté libéral ou ultralibéral, aux tendances ou aux poussées qui pourraient éventuellement venir d'autres pays européens. Malheureusement, pas de chez nous. Mais...
Antoine Vaucher.
Oui, je pense que je voulais juste revenir sur un autre point qui est dans le livre, que vous avez évoqué sur cette question des forces sociales qui pourraient converger autour d'un renouveau démocratique. Et vous parlez d'un parti européen, d'un nouveau parti du renouveau démocratique. Et une question que je me posais, c'est effectivement que ces forces sociales semblent être prises quand même, non seulement elles sont dispersées aujourd'hui, mais surtout elles sont prises dans un clivage entre un ensemble d'espaces critiques qui existent dans l'espace, disons, bruxellois, mais qui sont pris dans ce jeu très spécifique de la politique européenne. Les tranchées de la politique européenne ne ressemblent pas du tout aux tranchées de la politique nationale, parce que elles sont faites d'expertise, elles sont faites d'ONG qui sont dans un dialogue de face à face par rapport à la Commission. Et d'un autre côté, un espace politique national où, évidemment, les partis, par les carrières politiques aussi qui sont offertes, par les faiblesses des incitations à construire une politique transnationale, justement, sont conduits dans une forme de repli. Et donc, dans ces deux lignes de pente, en quelque sorte, comment essayer de penser la construction de ce parti politique, enfin, ce n'est pas un parti politique précisément, mais de ce parti européen que vous évoquez, ou en tout cas l'articulation, parce que tout l'enjeu est de réussir à articuler ces deux niveaux.
Étienne Balibar.
Merci. Vous savez, j'ai mis parti entre guillemets. J'ai dit que j'essayais.
Mouvement,
c'est dans les
le
dernières.
Mouvement.
Oui, enfin, c'est bon. On va se lancer dans une grande discussion là-dessus. Toutes ces notions.
La langue française est riche. C'est une journée
riche, mais pas seulement la langue française. Non, non. Par exemple, en anglais, c'est très important. C'est très intéressant. Il y a campaign and movement, hein, qui forment une grande alternative que depuis l'époque de la guerre du Vietnam et jusqu'à des circonstances plus récentes, la philosophie politique américaine a réfléchi. réfléchi. Bon, alors chez nous, justement, on n'a pas ça, campagne, hein, bon, mais on a plutôt parti ou mouvement. Donc, sous-entendu, organisation plus ou moins bureaucratisée ou centralisée d'un côté, et puis spontanéité, les indignés, toutes sortes de
et donc, votre parti, entre guillemets, se ressemblerait plutôt
partie
à quoi ?
Partie du mouvement, finalement.
Oui, partie du mouvement. Mais c'est ça que ça voulait dire. En réalité, bon, pourquoi est-ce que je me suis risqué à cette formulation avec un jeu de mots? Pour deux raisons. Bon, d'une part, parce que je pense que derrière ou au sein de la crise de la construction européenne d'aujourd'hui, il y a un problème de plus grande dimension, mais pas du tout abstrait, bon, je ne suis pas le seul à poser, qui est celui du devenir des formes politiques, hein, des formes bon, qui ont été, au fond, inventées. Alors, il faut remonter aussi loin que ça, après la Révolution française ou dans la première moitié du 19e siècle, quand tout ça s'est cristallisé, l'idée de la droite et de la gauche, l'idée du parti de l'ordre et du parti du mouvement. Bon, à l'époque, naturellement, parti, ça voulait dire qu'on prend parti, ça voulait dire qu'on s'engage. Ça n'avait pas encore la signification extraordinairement restrictive qui a été, mais importante, qui a été donnée à ce terme depuis. Et puis après, il y a eu différents types de partis. Il y a eu des partis de notables et il y a eu des partis de masse. Bon, tout ça. Bon, alors c'est toute cette époque de la pensée politique et de la construction même de la vie politique qui aujourd'hui arrive à une sorte de tournant à cause de la mondialisation, entre autres, à cause des changements dans les moyens de communication politique, à cause des différentes façons, au fond, pour les individus de nos sociétés de communiquer les uns avec les autres, de se socialiser, de recevoir de l'information, de définir leurs intérêts et leurs espérances.
Bon, mais ce sera alors, un parti européen,
ça sera alors l'Europe. Ça m'amène à ma deuxième raison. Oui. Alors, je pense que l'Europe, si vous voulez, bon, sans la fétichiser, bon, depuis un certain temps, est un des laboratoires, on pourrait dire, ou en tout cas un des terrains d'exercice de cette question. Bon, alors si on avait le temps, on parlerait de beaucoup de choses. Bon, en particulier la citoyenneté, évidemment. Moi, vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que je m'étais déjà occupé de l'Europe. Bon, j'avais écrit un livre qui s'appelait, je sais pas comment, citoyenneté européenne. Enfin bon, et avec un point d'interrogation. Il y a toujours des points d'interrogation.
Nous, citoyens d'Europe, voilà, nous, point citoyens d'interrogation. D'Europe. Les frontières, l'État, le peuple.
Toujours des points d'interrogation. Bon, alors, je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit, et cette affaire m'est revenue à l'esprit à l'occasion de la crise des réfugiés, des initiatives de la chancellerie allemande, quand je me suis risqué à dire imprudemment à l'automne dernier qu'on assistait, grâce à Madame Merkel, à une sorte d'élargissement d'un type nouveau, au fond, de la construction européenne. Bon, vous voyez bien les résistances et même les réactions violentes que ça propose. Donc, je m'étais risqué à dire, au fond, c'est une citoyenneté d'un type nouveau qui émerge peut-être en Europe ou qui, en tout cas, est susceptible de faire de l'Europe un espace politique vivant. Bon. Mais alors, là, vous me disiez, alors, parti européen, bon. Alors, effectivement, j'ai joué aussi sur le mot parce que moi, je suis pas contre l'existence des partis. Je pense que la vie politique ne se limite pas aux partis, que les partis tout seuls ne respirent pas. Il faut un autre... Bon, je suis d'une tradition qui pense que les mouvements sociaux sont en quelque sorte l'air dont les partis ont besoin pour respirer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la dernière période, et c'est un des éléments de la crise du politique en Europe, les partis politiques profondément sclérosés, au fond, qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont fabriqué naturellement au niveau de l'Europe des espèces de grandes coalitions que Madame Le Pen dénonce tous les jours. Mais je suis désolé, elle n'a pas tort. Dans les faits, c'est vrai, naturellement, et qui monopolisent la représentation politique au niveau européen. D'un autre côté, ce sont des partis qui ne veulent pas entendre parler de traverser les frontières. Bon, je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile. Il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de culture. Mais le personnel politique des pays dans lesquels nous vivons, c'est vrai pour M. Juppé, comme c'est vrai pour M. Hollande ou pour M. Montebourg, bon, occupe une espèce de niche, si vous voulez, monopoliste, qui permet d'être là où se fait la transmission, la traduction des intérêts et des revendications ou des espoirs entre le niveau national et le niveau européen. C'est pourquoi il ne faut absolument pas transnationaliser la politique.
Oui, mais en tout cas, il faut que ça passe par les peuples, il faut que ça passe par le bas, justement, plus que par le haut, et par la politique, par le mouvement, par ce que vous voulez, et par Dalibard, mais pas par l'investissement, alors que François Hollande, avec ses 15 sociodémocrates, il parlait de relancer le projet européen par l'investissement.
Il a bonne mine.
Qui est un investissement pas seulement économique, d'ailleurs, qui est un investissement culturel, qui est un investissement moral.
Il a bonne mine. Après, je dis pas que tout est de sa faute, évidemment. Bon, il faut pas tirer, comme on dit, sur une ambulance, mais il a hérité d'une situation dont la difficulté exigeait sans doute des initiatives et des perspectives qui n'étaient pas les siennes. Effectivement, ces réunions de partis sociodémocrates sont des réunions de clubs.
Donc c'est pas de là que viendra l'espoir. Et pourtant, chaque fin de texte est se termine par une note d'espoir. C'est d'ailleurs très agréable quand on lit ce recueil d'articles ou de textes.
Je vous remercie.
Étienne Balibar, parce que ce n'est pas seulement la crise existentielle et l'interregnum dont vous parlez, même si cette crise est manifestement très grave, c'est aussi à chaque fois la façon dont on peut réfléchir à retrouver un élan. Et ça, c'est quelque chose de très agréable. On va terminer avec Franz Schubert.
Merci, merci beaucoup.
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen einer Lieder liefen, komm zu mir. Dann schlank Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen fürchte Heide nicht, fürchte
Étienne Balibar, Stanchion par Thomas Kastoff, c'était votre demande. Pour quelle raison?
Oui, parce que je suis tombé dessus l'autre jour dans une version légèrement différente, mais celle-ci est tout aussi belle. Bon, vous savez que Thomas Kastoff...
Sous la direction de Claudio Abbado,
oui,
c'est pas mal.
Oui, bien sûr, évidemment. Bon, mais ce qu'il y a dans la version de piano qui me touche beaucoup, c'est qu'on entend plus, si vous voulez, c'est un contrepoint de rythme 3-2 qui est quelque chose d'absolument bouleversant. Mais je suis tombé dessus l'autre jour, j'ai entendu Kastoff, que naturellement je connais. Comme vous savez, peut-être, il vient de décider de mettre fin à sa carrière de chanteur sur scène et de récital parce que son corps ne tient plus. La thalidomide aura vaincu, et je pense que c'est une des plus belles interprétations. Alors, même si c'est un peu un tube très connu, je me suis dit on va l'écouter.
Merci beaucoup, Étienne Balibar. Europe, crise et fin. Nous n'avons fait qu'esquisser quelques-unes des grandes thématiques qu'on peut lire dans ce livre fort intéressant qui paraît aux éditions du Bord de l'Eau. Merci, Antoine Vaucher, d'être venu au micro de la Grande Table. Je rappelle également le titre de votre livre qui date un tout petit peu plus, puisqu'il n'a que 2 ans, Démocratiser l'Europe, qui a paru aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. Et puis, vous savez que c'est une journée dédié à la langue française aujourd'hui. On retrouve donc à 13h28 le dictionnaire intime de la langue française de l'écrivain et académicien Dany Laferrière.
Amérique. Je n'ai jamais accepté le fait que les États-Unis se soient emparés du beau mot d'Amérique. Ce mot appartient à tous les pays de ce continent. Je suis réticent à la dénomination Antilles qui fait trop penser à la colonisation, ou à Caraïbes, qui me rappelle les Indiens Caraïbes, dont le génocide reste une inguérissable douleur. Il reste ce mot Amérique, dont Bolivar rêvait d'en faire un seul pays. Ce continent qui évoque pour l'écrivain argentin Borges le matin du monde. Quand on le parcourt avec ses grands espaces, ces multiples cultures superposées, ces paysages contrastés, ces langues qui s'entrechoquent, ces villes hautement urbanisées alternant avec des villages perdus, on se croirait dans le tableau d'un peintre primitif qui place les visages et les paysages sur un même plan, créant ce sentiment d'abondance qui excite les fantasmes du reste de la planète. C'est ainsi que se construisent les fameuses mythologies américaines. Mais on n'a qu'à gratter la terre pour que jaillisse un geyser de sang, celui des peuples assassinés il y a à peine 200 ans, ou celui des jeunes noirs abattus aujourd'hui encore par les policiers blancs, ou celui des noirs tués par des dictateurs noirs qui refusent le suffrage universel. Malgré tout, les gens de partout dans le monde continuent à rêver à cette Amérique. Pour empêcher un homme de rêver, dit l'écrivain le plus emblématique de ce continent, Ernest Hemingway, il faudra l'abattre. Et c'est ce qu'on fait chaque jour.
C'était le dictionnaire intime de la langue française par Dany Laferrière, à retrouver sur franceculture.fr et à suivre sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, hashtag donc SLFF16. Merci à toute l'équipe de La Grande Table. À la réalisation aujourd'hui, c'était Annabelle Brouard, et à la prise de son, Clément Daté.